au 97.3. On vous donne le juste.
Nous sommes avec Sophie Bellan, qui est directrice de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, la division du Québec. Donc, nous sommes ici pour parler de ce programme de rachat d'armes à feu qui fait beaucoup de bruit. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce fameux programme d'indemnisation?
En fait, le programme de rachat et d'indemnisation a été mis en place par le gouvernement fédéral pour, selon leur dire, retirer des armes de style d'assaut de la population civile et, pour ne pas reprendre leur mot exact, là, des rues, qui donnent un faux sentiment de sécurité à la population et qui déroute en fait le vrai du problème et, par le fait même, les investissements qui seraient nécessaires à nos services de police, nos frontières ou même encore la santé mentale. Ce programme-là s'adresse à des propriétaires d'armes légales, donc des gens qui sont enregistrés, contrôlés par ce même gouvernement, pour retirer des armes qui ont un style militaire, donc qui ont une apparence esthétique militaire, mais qui n'ont rien à voir avec les armes de style et les armes d'assaut que les gens ont là, dans leur imaginaire, pour ne pas nommer la mitraillette. Donc, ce sont des armes qui sont bannies depuis 1967 au Canada. Donc, les armes qui demeurent sont des armes qui sont utilisées principalement pour le tir sportif et pour, oui, pour la chasse, ça peut être utilisé parce que la versatilité de ce type d'arme-là. Cela dit, je tiens à préciser qu'on s'attaque à 1% de la criminalité au Canada en faisant ce genre de mesures-là qui, je rappelle, on est rendu à un peu plus de 1,3 milliard d'investissements par le gouvernement dans C21 et le 742 millions qui est alloué pour faire le rachat est nettement insuffisant pour compenser justement, parce que c'est ce qui est véhiculé par le gouvernement. Donc, de dire qu'on va compenser justement les propriétaires, c'est complètement faux, parce que pour certains, il n'y aura même pas d'indemnisation. Donc, c'est une dépossession pure et simple d'un bien acquis de façon légale par des propriétaires qui ne représentent aucunement une menace pour la sécurité du public au Canada.
De votre point de vue, ça coûte cher et ça n'atteint pas les objectifs escomptés, c'est ça?
On pourrait en faire un excellent résumé juste avec la phrase que vous venez de dire, M. Goyer, effectivement.
Du côté d'Ottawa, on assure que le programme ne touche pas les agriculteurs, les chasseurs ou même les tireurs sportifs. Je crois que vous n'êtes pas d'accord de votre côté.
Effectivement. Donc, il y a des armes qui se trouvent dans la liste des armes qui sont prohibées, qui sont des armes qui sont utilisées effectivement pour la chasse. On peut parler de la Ruger No. 1, la Waterbee Mag 5, d'autres armes qui ont un petit calibre, donc un calibre 22, des armes qui sont principalement utilisées pour aller effectivement à la chasse à la perdrix ou encore au lièvre. Ce ne sont pas nécessairement des armes de style militaire, donc il y a beaucoup de modèles d'armes qui sont à l'intérieur. Ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a pas de spectre précis, il n'y a pas d'études qui sont faites, par exemple, balistique, cadence de tir et ainsi de suite. Donc, on s'est vraiment basé sur l'esthétique, sur la carcasse de l'arme, en fait, sur sa robe pour déterminer sa dangerosité. Et des 19 000 armes qui disent rester pour la chasse, ben je veux pas vous amener sur le dossier de la SKS, mais ça sera le prochain dossier que vous aurez probablement à couvrir parce que le gouvernement a des visées sur ces types d'armes-là qui sont notamment très utilisés par nos communautés autochtones et les Premières Nations dans leurs moyens de subsistance. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, on est prêt à travailler de pair avec les gouvernements pour justement régler certaines problématiques. Si on n'est pas capable d'appliquer les lois qui sont les plus sévères en Amérique du Nord, au Canada, si on n'est pas capable d'appliquer déjà les lois, les règlements qu'on a en place par manque de fonds, manque d'effectifs, pourquoi est-ce qu'on va aller créer de nouvelles lois et en sous-effectif aller retirer des gens, des policiers? C'est complètement insensé. Là. C'est un manque de responsabilité de la part des ministres de la Sécurité publique, tant canadiens que provinciaux.
En parlant du reste du Canada, je crois que le Québec est la seule province au Canada à avoir accepté de collaborer avec ce programme. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
On est un peu déçus du ministre en place actuellement, M. Lafrenière, d'avoir pris cette décision-là, d'avoir pris peut-être une décision un peu trop rapide, de ne pas avoir malheureusement fait ses devoirs en tant que ministre de la Sécurité publique, à savoir quelles sont les opinions des chefs de police du Québec. On trouve ça aberrant. Le Québec, c'est une province qui est excessivement grande. Il n'y a pas des postes de police dans toutes les municipalités. Donc, la logistique derrière tout ça, la destruction qu'il veut faire au Québec, on ne sait toujours pas qui va prendre en charge cette destruction-là. Puis si on parle, par exemple, des munitions et des équipements qui sont laissés en possession des propriétaires parce qu'ils ne sont pas compensés par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées avec M. Lafrenière, qui demeure toujours sans réponse, qui fait en sorte que de mettre de l'avant, avec un délai aussi court, je tiens à le rappeler, là, du 19 janvier au 31 mars, pour avoir une compensation. Ce projet de loi-là a été mis sur pied pour être voué à l'échec. Et on trouve encore plus aberrant que le Québec qui demande justement que le gouvernement fédéral arrête de s'ingérer dans notre province soit le premier en liste pour toucher un maigre 12,4 millions de dollars qu'on sait qui va être insuffisant à la collecte de ces armes-là.
Parlez-nous des indemnisations pour les propriétaires d'armes. Est-ce que vous jugez que c'est suffisant?
Ça va dépendre du type d'arme que vous avez. Pour la majorité des armes, là, ça peut varier entre 400 et 1200 $. Mais on a vu des gens se faire offrir un maigre 2 $. Je vous le dis, c'est pas des farces. On a des membres qui ont fait l'exercice et qui se sont vus offrir un 2 $ pour racheter l'arme, mais 400 $ pour la faire désactiver. Donc, ce qui nous laisse croire que le gouvernement ne veut pas nécessairement les récupérer, mais forcer le propriétaire à les désactiver pour une somme aussi ridicule que 400 $, sachant que ça va créer un engouement auprès de nos armuriers puis qu'ils vont charger beaucoup plus cher que 400 $ pour désactiver les armes. Comme je vous dis, il y a beaucoup de questions qui se posent. Dans la lettre qui est reçue par le gouvernement fédéral lui-même, dans le premier paragraphe, vient dire qu'il va compenser justement les propriétaires. Mais par contre, dans les deux derniers paragraphes, on vient statuer que c'est sous forme de premier arrivé, premier servi. Un montant de 742 millions est alloué et que lorsque ce montant-là sera épuisé, il n'y aura plus rien. Un délai de 45 jours suivant le 31 mars pour vous confirmer si vous aurez une indemnisation. Et il est très clairement écrit qu'il est fort possible que les gens n'aient pas d'indemnisation. Donc, si on avait eu un gouvernement juste et équitable qui avait vraiment à cœur la sécurité du public et qu'on avait vraiment eu un enjeu de sécurité publique avec ces armes-là qui sont détenues légalement, ben le gouvernement aurait mis les moyens en place, aurait mis les fonds en place et aurait justifié ces fonds-là de dépenses publiques pour racheter ces armes-là. Ce sont des montants qui ont été établis selon des chiffres de vente en 2018 et 2020. Donc, une arme qui a été achetée, par exemple, à 1 200 $ avant toutes ces mesures-là, aujourd'hui, ben malheureusement, elle a pris de la valeur. Et c'est cette valeur-là que le gouvernement ne veut pas indemniser. Par contre, encore une fois, je réitère que s'il avait vraiment voulu s'attaquer à la criminalité puis que ces armes-là avaient vraiment été un problème, il aurait indemnisé justement les propriétaires. Je rappelle que ces armes-là sont toujours en possession des propriétaires depuis mai 2020. Dans leur coffre, à la maison, sans possibilité d'utilisation, même pas au club de tir. C'est de dire que ces armes-là, s'ils avaient été vraiment dangereuses, on serait pas rendu à notre troisième amnistie qui nous mène jusqu'au 30 octobre 2026.
Il y a des dates butoirs, je crois, qui s'en viennent par rapport à ça. C'est quoi les prochaines étapes concernant ça?
Les prochaines étapes, en fait, c'est que les propriétaires ont jusqu'au 31 mars pour enregistrer, en fait, pour déclarer leurs armes au niveau du registre fédéral. Et dans ce registre-là, ben vous allez avoir à la fin, comme je vous disais, le montant qui pourrait être donné. Puis je dis bien « pourrait » parce que l'évaluation va se faire 45 jours après le 31 mars. Par la suite, on a une amnistie qui nous mène jusqu'au 30 octobre. Donc, jusqu'au 30 octobre, il n'y aura pas de mesures criminelles ou de mesures punitives là, qui vont être attribuées aux propriétaires parce qu'on a une amnistie. D'ici là, ce qu'on pense, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'eau qui coule sur les ponts. Comme vous avez dit précédemment, le Québec est la seule province à avoir signifié son envie de participer. Les autres provinces canadiennes ont refusé. Les corps de police, les plus grands corps de police du Canada ont aussi refusé. L'OPP, la police de Cornwall, la police d'Ottawa. On a des provinces qui ont même voté des lois qui viennent protéger la Saskatchewan, l'Alberta, viennent protéger leurs citoyens contre justement ces mesures fédérales-là. Donc, la question est, comment peut-on imposer à un pays des mesures pour lesquelles il y a des provinces qui ne participeront pas? Donc, ça ne devient pas, ce n'est plus une démocratie. Ça devient imposé et c'est une dépossession d'un bien légalement acquis qui peut ouvrir la porte à d'autres mesures éventuelles pour d'autres types de biens.
Je vous remercie énormément d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions aujourd'hui. C'est très apprécié.
Bien, c'est moi qui apprécie le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Puis s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me recontacter. Je vais être disponible. Ça va me faire plaisir.
C'était Sophie Bellan, directrice de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu pour le Québec.
Au 97.3, on vous donne le juste.
C'est là-dessus que l'heure juste se termine aujourd'hui. Merci de choisir le 97.3 pour vous informer et merci de suivre l'heure juste. Vous venez d'entendre le journaliste Alexis Goyer parler du programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut. En début d'émission, il a donné la parole sur ce sujet au maire de Gracefield, Mathieu Caron. Et en seconde partie, c'était Sophie Bellan, directrice de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, Division Québec, qui répondait à ces questions. Merci à eux d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'heure juste en rattrapage sur notre site internet dans la section balado. C'était Simon Dominé au micro, directeur de l'information à CAGAFM. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du 97.3. À la semaine prochaine.